had the courage I'd pour into your jaw. All the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it now. Let's get started now. Let's get started.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir. Et ce soir, on va vous présenter un livre qui s'appelle Le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. C'est un livre qui date de 2005, donc ça a presque 10 ans. Mais c'est un livre intéressant parce que l'actualité nous fournit plein d'exemples qui auraient très très bien pu se retrouver dans le livre. On peut le trouver aux éditions Luxe et c'est illustré par Charb. Alors, donc ça s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle.
Alors je t'interromps une seconde. Déjà pour dire que il n'y a que Sophie, donc c'est Sophie qui va vous présenter ce soir le livre. Et puis bah moi je vais l'assister du mieux que je pourrai en faisant l'idiot utile. Et quant à José, il n'est pas là. Il est pour une excuse assez fallacieuse, il paraît qu'il ne peut pas marcher. Bon. Et même si c'est vrai, on lui en veut un petit peu. Voilà. De toute façon, je sais qu'il s'est déjà moqué de moi parce que vous venez d'entendre le morceau Now de No Means No, un groupe canadien que vous n'avez jamais entendu dans cette émission. Je n'en doute pas. Ou alors vous l'avez déjà entendu 50 fois, c'est aussi possible. Voilà. Et donc c'était, c'est tiré de l'album 0 plus 2 égale 1. Et voilà, donc je vous répète, No Means No, c'est mon groupe préféré. Voilà, quant à Jean-Mathias, lui aussi, il a été pris en otage par une colonie de vacances. Et donc, si jamais il s'en sort, on espère le revoir à peu près intact, et en espérant que, voilà, qu'il puisse sortir avec une chemise propre. Voilà, Sophie, je te redonne la parole après cette interruption ridicule.
Il n'y a pas de problème. Donc on va parler du petit cours d'autodéfense intellectuelle ce soir. C'est inspiré d'une citation de Chomsky, le petit cours d'autodéfense intellectuelle, parce que Noam Chomsky a dit, c'est cité dans le premier chapitre, enfin dans l'introduction, si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. C'est un livre qu'a voulu faire Bayarjon sur la pensée critique. En fait, c'est une espèce de formation basique à la pensée critique avec des outils vraiment très concrets. Alors lui, Bayarjon, il est professeur de sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. C'est un militant libertaire depuis assez longtemps. Et il a été très inspiré par la citation de Chomsky. Et il donne une autre citation qui est assez intéressante pour illustrer sa démarche. C'est une citation d'Henri Poincaré qui dit « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réfléchir. »
Oui, ça c'est Poincaré, c'est un mathématicien français, c'est pas du tout l'homme politique qui a lutté pour les Francs-Forts dans les années 20, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Il a écrit des choses comme « La science et l'hypothèse » et deux, trois autres bricoles assez complexes. C'est intéressant si on aime bien l'épistémologie un peu hard, parce que c'est truffé de formules mathématiques.
Il parle un peu d'épistémologie d'ailleurs, Bayarjon.
Forcément, ça ne m'étonne pas de lui. Donc Bayarjon, vous en avez parlé la fois dernière dans les petits livres de présentation de trucs d'anarchistes, puisque Bayarjon c'est aussi l'auteur de « L'ordre moins l'autorité », un livre d'histoire et de théorie consacré à l'anarchisme. Donc voilà, c'est un ami de Chomsky, c'est quelqu'un qui est très intéressé par les sciences, par l'éducation, qui a publié aussi chez Lux un recueil de textes de pédagogues libertaires qui est très intéressant. Voilà, c'est quelqu'un dont on peut suivre.
Il a publié le petit cours d'autodéfense en économie aussi, qui est bien, et il y a eu Les chiens en soif, ça c'est le dernier.
Donc voilà, c'est un auteur politique, j'ai pas tout lu, mais en règle générale c'est intéressant, donc vous pouvez aller farfouiller si ce dont on parle vous intéresse.
Puis c'est marrant en plus, alors il commence par expliquer sa démarche, et en fait sa démarche elle est pas mal illustrée par une petite histoire. C'est quatre personnes qui voyagent en Australie, ils voyagent en train, traversent l'Australie en train, et puis ils voient un mouton noir. Il le voit par la vitre du train, et puis le premier dit tiens, les moutons sont noirs en Australie. Et le deuxième dit non, pas du tout. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a des moutons qui sont noirs en Australie. Le troisième dit non, vous avez tort. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins un mouton est noir en Australie. Et le quatrième, un sceptique, dit vous avez tous tort. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en Australie, il y a au moins un mouton dont l'un des côtés est noir. Alors, il va nous apprendre ça, en fait, Bayarjon.
Ah oui, donc le sceptique ici, c'est pas celui qui... C'est pas le sceptique de Bayarjon, c'est pas celui du truc de Poincaré, c'est pas celui qui va dire « Non, on peut pas savoir s'il y a des moutons en Australie. »
Non, c'est vraiment celui qui se situe au milieu de la démarche, en fait. Ni dans le trop de doute, ni dans le trop de scepticisme.
Dans trop de dogmatisme.
De dogmatisme, pardon.
Certitude ou de infondé ou...
Il nous dit dans l'introduction en fait qu'il a écrit ce livre parce qu'il était inquiet de la prévalence de croyances notamment qui circulaient dans la société, avec un mélange assez disparate. Hein. Il cite par exemple le paranormal, l'ésotérisme, le New Age, la transmission de pensées, les vies antérieures, les enlèvements par les extraterrestres, le pouvoir des cristaux, les cures miracles, la communication avec les morts, les diverses formes de mysticisme, le feng shui et l'astrologie. Donc ça l'inquiétait pas mal. je pense, a raison. Et sa deuxième inquiétude, il était un peu consterné, en fait. Il dit que le savoir et la rationalité, en fait, soit dans la vie académique et dans la vie intellectuelle, vraiment en régression, en fait. Il voit plutôt une progression dans ces milieux-là du charlatanisme et de l'inculture. Et sa troisième inquiétude, en fait, elle est un petit peu plus large, c'est une inquiétude politique, c'est le fait, pour des citoyens dans une démocratie, de ne pas arriver à comprendre le monde dans lequel on vit, et du coup de ne pas arriver à agir. Donc il s'inquiète, en fait, de l'état des médias, de, comme il dit, de leur concentration, de leur convergence, et de leur dérive marchande. Il parle de la propagande des médias. Et pour lui, il y a comme une espèce de renoncement à l'éducation des citoyens, qui est une éducation importante. Pour lui, c'est la pensée critique, en fait. Il dit que faire de l'autodéfense intellectuelle, c'est se former à être citoyen, c'est complètement nécessaire. Donc, c'est une introduction à la pensée critique, ça marche plutôt bien. Et puis, un point assez remarquable, dont l'auteur ne parle évidemment pas, mais c'est sa bibliographie. Il raconte plein d'anecdotes. Et puis après, on peut aller chercher dans sa biblio pour trouver tout en détail. C'est vraiment une mine, notamment... C'est dans sa biblio que j'avais découvert le livre dont j'avais parlé la dernière fois de Diane Ravitch, La police du langage. C'est par lui que je l'avais découvert, en fait. Il dit pas qu'il fait du neuf ni qu'il fait de l'original, mais en fait, il va parler de choses connues, mais qu'on pense pas toujours à utiliser. Il va nous donner une approche synthétique. C'est comme une sorte de guide, en fait, qu'il faudrait toujours avoir avec soi. D'ailleurs, il le dit lui-même, il va nous donner, alors c'est écrit en français québécois, donc il y a pas mal de mots québécois assez rigolos. Donc il nous donne un kit de détection de Poutine. La poutine, c'est, pour les Québécois, c'est une espèce de tas de frites avec une sauce grasse. Donc ça peut se traduire par un détecteur de conneries, si on veut. Il va nous apprendre donc, à chercher confirmation des faits, à encourager, par exemple, la discussion entre gens informés qui ont des points de vue différents, à ne pas accorder de poids aux arguments d'autorité, à envisager plus d'une seule hypothèse.
Et... Un argument d'autorité, je précise pour certains auditeurs peut-être, c'est le fait de dire « c'est vrai parce que machin l'a dit. »
Et machin faisant autorité, a priori.
Sans qu'on puisse vérifier les dires de machin, mais comme machin dit la vérité, on est supposé se taire après cet argument.
Et ce qu'il nous dit aussi à la fin, c'est de ne pas trop s'accrocher à nos hypothèses juste parce que ce sont les nôtres. Et ça, c'est peut-être le plus dur, en fait. Donc, ça se divise en fait en deux parties, son livre. Et d'abord, il commence par nous parler du langage. Il nous donne des outils vraiment très concrets. Il dit que, en fait, pour lui, les mots ne sont pas tellement importants, c'est plutôt les différents sens qu'on leur donne. On peut maquiller la réalité avec des mots. Donc, par exemple, il donne des citations d'Orwell dans Politics and the English Language, des mots comme, par exemple, la pacification. Alors, pacification, qu'est-ce que ça veut dire ?
Massacre.
Oui, ça veut à peu près dire ça. Ça veut dire village bombardé, habitants forcés de fuir vers la campagne, maisons brûlées, troupeaux tués. Transfert de population.
La pacification, c'est vrai. Après, c'est la paix des cimetières.
C'est la paix des cimetières, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, le transfert de population ou alors la reconfiguration des frontières ?
Expulsion.
Oui, c'est ça, c'est voler leurs fermes à des millions de paysans qui partent en exil sur les routes. Donc il va nous expliquer d'abord des choses assez simples qu'on apprend au lycée, mais qui ne sont pas appliquées à l'actualité d'habitude au lycée. Donc il nous parle par exemple de la dénotation et de la connotation. Qu'est-ce qui se passe si on regarde une voiture et on l'appelle une automobile, un bolide ou une minoune ? Alors minoune, c'est un mot québécois, on déduit que ça veut dire un taco. On parle de la même voiture pourtant, c'est pas la même chose. Il nous parle aussi de la question de l'avortement. Les personnes qui sont pro-vie et les personnes qui sont pro-choix. Alors c'est assez marrant parce que pro-vie, ce sont ceux qui sont contre l'avortement et pro-choix sont donc ceux qui sont pour. Et ils nous disent ça, c'est des termes extrêmement intelligents parce que qui va se déclarer officiellement anti-vie ou anti-choix ? Voilà. Chez Walmart, c'est une grande chaîne de supermarchés américains, on ne trouve pas des employés, on trouve des associés.
Et... Sachant que Walmart, c'est une grande chaîne de magasins qui a pour une de ses caractéristiques assez intéressantes, c'est qu'elle ferme dès qu'un de ses employés a la mauvaise idée de se syndiquer. Voilà. Ils ont fait ça par le passé, ils ont fermé des magasins entiers parce qu'il y en avait un qui s'était syndiqué. Genre, non, le syndicat ne passera pas par nous. Et ils ont aussi une tactique commerciale assez tentaculaire qui consiste à implanter trop de magasins dans un coin pour étouffer à peu près toute la concurrence. Et une fois que la concurrence est morte et enterrée, ben, ils retirent les magasins Walmart sur numéraire et il ne reste plus que glorieux.
Et c'est pas les seuls à faire ça d'ailleurs, le fermer pour syndicat. Et Starbucks, et il y a McDo aussi, alors c'est intéressant parce que McDo, justement, quand vous êtes un employé à McDonald's, vous n'êtes pas un employé, vous êtes un équipier. Mais si vous syndiquez aux États-Unis, donc ils vont fermer le McDo et ils vont faire encore mieux, ils vont ouvrir un autre en face. Ça s'est fait plusieurs fois. Et donc, comme je disais, le livre est illustré par Charb. Il y a une illustration assez marrante où il y a un patron qui est devant un bureau qui dit le patron dit, il vaut mieux parler d'un salarié plutôt que d'un travailleur, parce que le salarié, c'est passif, alors qu'un travailleur, ce serait actif. Mais on va parler d'eux de façon négative, donc on va dire des salariés. C'est mieux. Il parle des biotechnologies alimentaires aussi.
Donc en fait, il fait une petite analyse comme ça de tout un tas de mots.
Tout un tas de termes qu'on va trouver de façon récurrente dans les médias.
Qu'on utilise tout le temps, soit dans les médias, soit dans le monde de l'entreprise, qui sont a priori neutres, mais qui en fait, si je reprends un peu l'exemple que tu donnais sur la différente façon de désigner une voiture, on va avoir des connotations toujours très très différentes. Et sans qu'on forcément les gens qui emploient d'ailleurs les termes en soient conscients.
On finit par pas prendre.
C'est-à-dire que c'est comme quand on utilise effectivement salarié ou travailleur. Ou alors, pour prendre l'exemple d'un autre livre que tu avais songé chroniquer, exclu au lieu d'exploiter, par exemple. Parce que l'exclu, il n'y a pas un excluur, alors que l'exploité, ça appelle assez logiquement un exploiteur.
Quelqu'un qui exploite.
Voilà.
Un travailleur, c'est obligatoire qu'il bosse. Et il y avait, il y a plein d'exemples vraiment très intéressants comme ça qu'on voit pas quand on y prête pas attention. Notamment en 1992, il y avait une campagne d'un groupe d'entreprises américaines qui faisait des biotechnologies alimentaires, qui avait carrément édité un guide de mots qu'il fallait plutôt utiliser. Et à l'inverse, il y avait les mots qu'il fallait plutôt pas utiliser. Donc sur les biotechnologies, les mots préférés c'était beauté, abondance, choix, santé, enfant, tradition. Il fallait vraiment utiliser ça et puis surtout pas dire biotechnologie. ADN, expérimentation, économie, laboratoire, machine et manipulée.
Et Frankenstein ?
C'était pas marqué dans le guide.
D'accord. On aurait pu l'utiliser.
Peut-être qu'ils avaient le droit. Puis aussi, bien sûr, ça marche dans les conflits armés. Dans les conflits armés, alors ce qu'on voit tout le temps au journal télévisé, par exemple, quand on nous parle de perte collatérale, il faut comprendre que ça veut dire mort de civil. Quand on nous parle de frappe chirurgicale, on dit, en fait, ce que ça veut dire, c'est bombardement qu'on espère vaguement être précis en raison de la proximité de civils, mais on n'est pas très sûr. Il nous fait tout un tableau comme ça sur les conflits armés. Donc pour lui, le langage...
Les frappes chirurgicales, les soi-disant frappes chirurgicales, représentaient 1% des bombes lancées sur l'Irak pendant la première mouture de la guerre d'Irak. Tout le reste, c'était des trucs balancés depuis le B-52 au-dessus des nuages, sans aucune visibilité, en se disant que si on posait un tapis de bombe là-dessus, ça devrait rien finir par toucher le truc qu'on voulait toucher.
Sans trop de pertes collatérales, donc.
Avec beaucoup de dommages collatéraux, mais ça n'a rien, on s'en fiche.
On s'en fiche. Donc c'est intéressant ce qu'il nous dit sur les mots. Il nous parle de l'imprécision aussi, il parle des prédictions de Nostradamus par exemple, il en décortique quelques-unes. Finalement, on voit bien que c'est tellement vague que c'était très facile de dire qu'il avait raison en fait.
Bah, c'est ce genre de truc, ça marche toujours sur le même principe, c'est que c'est tellement vague que ça ne peut qu'être vrai. Sauf que si ça ne peut qu'être vrai, si on suit une certaine épistémologie, c'est pas du tout une énonciation scientifique, parce qu'une énonciation scientifique justement doit prêter, doit laisser la possibilité ouverte d'une expérimentation dans laquelle on pourrait montrer qu'elle est fausse. C'est-à-dire qu'un énoncé scientifique, c'est un énoncé qui est par définition réfutable en droit.
Mais là, c'est pas possible de réfuter.
Et si c'est pas possible, alors moi, je prends un exemple que j'avais trouvé dans un horoscope qui est génial et qui va dans ce sens-là. C'était, vous allez peut-être, votre vie sentimentale va peut-être connaître de grands changements. Avec ce genre d'énoncé, on est sûr d'avoir toujours raison. Le peut-être sauf
peut-être.
Tout. Mais grand changement, ça peut être vous passer de célibataire en couple. Ça peut être aussi vous passer de en couple à célibataire.
Ou de en couple à vous acheter une maison.
Ou alors, vie sentimentale. La vie sentimentale.
Ah, sentimentale, d'accord. Voilà.
Ou alors vous rencontrez un amant, une maîtresse ou ce que vous voulez.
Mais peut-être.
Mais c'est toujours peut-être. Comme ça, s'il ne se passe rien.
Ils n'ont pas tort. Ah oui. C'est pas mal de jouer sur l'ambiguïté. Il cite Prévert qui disait si quelqu'un vous dit je me tue à vous le dire, laissez-le mourir. Non, on peut faire de l'humour, mais aussi on peut vous dire sinon écoutez, les miracles de la science vous semblent acceptables, pourquoi refusez-vous ceux de la Bible ? Là, on joue sur le double sens du mot miracle, en fait, le sens propre, le sens figuré. Il parle de ce qu'il appelle les mots fouines aussi. C'est des petites fouines, comme par exemple dans la publicité, un produit aide à, un produit contribue à, des chercheurs affirment, ou bien la science affirme. Il parle du jargon aussi, il nous dit que c'est parfois nécessaire, que par exemple on ne va pas apprendre la philosophie de Kant sans des mots un minimum complexes, mais pour lui c'est très très loin d'être toujours nécessaire, notamment pour le langage du droit en fait, ce qu'il appelle le legalese en anglais. Et il y a des mouvements d'ailleurs qui prônent la simplification du langage juridique. Ils citent aussi un truc très marrant, c'est puisqu'on parlait d'astrologie, ils citent la thèse d'Elisabeth Tessier, une astrologue. La thèse avait fait un petit peu de bruit il y a quelques années. Ici, des extraits, on comprend absolument rien. Mais là, il y a pas de sens caché, il y a pas de sens du tout en fait. Ça veut vraiment rien dire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la thèse d'Elisabeth Tessier était défendue
en Sorbonne.
En Sorbonne, le président du jury, c'était Michel Maffesoli, je crois, un sociologue reconnu. Et Elisabeth Tessier, c'était l'ancienne astrologue de François Mitterrand. Donc elle a écrit sa thèse, ça a été soutenu, voilà, donc bon, c'est quand même assez, on peut en rire, on peut en pleurer, personnellement ça fait plutôt rire.
On peut rire, hein, il cite, d'ailleurs il en cite toute une page, on comprend, mais vraiment strictement rien. C'est très très marrant, et alors il nous rappelle que pour Chomsky, en fait, le jargon, c'est parfois une manière pour les intellectuels, alors un, de cacher la vacuité totale de ce qu'ils disent, et en plus de justifier leur existence. Il y avait ce canular, ce qu'on appelait le canular de l'hypothèse Fox. C'est un exposé, un espèce de faux exposé sur la théorie des jeux mathématiques, devant 55 personnes qui étaient toutes hautement scolarisées, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des psychologues, et ils n'ont pas vu que la conférence était truffée de contradictions et que M. Fox était en réalité un comédien. Et alors l'hypothèse Fox, ce qui a été conclu de ça par les gens qui ont fait ce canular, c'est qu'un discours, s'il est inintelligible mais émis par une source légitime, tendra malgré tout à être accepté comme intelligible.
Pour ceux qui ont été sur les bancs de la fac en philo, c'est une hypothèse plus que plausible. J'ai pu la vérifier à plusieurs reprises.
Mais en philo, ça
marche très très bien.
Les
trucs en science, ils ont des moyens de c'est plus difficile.
Ils vérifient pas toujours, c'est ça.
Non, mais c'est plus difficile d'être un imposteur parce qu'il y a des normes communes. Ce qui fait que si tu tombes sur des types vraiment calés dans ton domaine et que tu racontes vraiment n'importe quoi, ça va pas durer très très longtemps l'imposture.
Mais sauf que ça peut durer quand même. Ça fait penser à Sokal et Bricmont, ça, par exemple.
Oui, mais justement, Sokal et Bricmont, c'était pas en science qu'ils l'avaient faite, l'imposture. Ils avaient utilisé de soi-disant énoncés scientifiques. Mmh. Alors, l'affaire Sokal et Bricmont, c'est quoi? C'est Sokal qui publie un article dans une revue postmoderne très très célèbre outre-Atlantique, et il publie ça, et c'est un truc truffé d'énoncés complètement débiles. Et c'est pris, c'est accepté dans cette revue, ça fait un débat.
Très au sérieux.
C'est pris très au sérieux, tout ça, bon. Oui, bon, je passe les détails. Et ensuite, ils ont révélé la supercherie. Et ça a produit un petit scandale dans le monde intellectuel, en particulier français. Parce qu'après, ils ont publié non seulement le livre, mais aussi, ils ont ajouté des exemples tirés de grands philosophes français, comme Lacan, Deleuze, Derrida, Kristeva, Enco. Enfin, Kristeva, elle n'est pas française, je crois qu'elle est belge, mais c'est bon. Elle est reconnue comme une sommité dans le milieu philosophique européen. Et ils montraient, en disant que voilà, les théories globales de ces gens-là, ben, ils ne savaient pas trop, que c'était peut-être de bonnes théories. Mais par contre, ils prenaient des pages. Et il disait, là, c'est plus qu'un usage métaphorique. Ils prétendent utiliser la science pour appuyer leur thèse. Sauf que...
ça ne veut rien dire.
Ça ne veut, strictement scientifique, d'un point de vue strictement scientifique, c'est faux. Tout simplement faux. Et le souci, c'est qu'en philosophie, quand tu jargonnes à fond, comme certains idéalistes allemands, type Fichte ou autre, là, la supercherie, elle peut durer 200 ans. Sans souci. D'accord. Et les gens, ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais en même temps, effectivement, ça les protège du profane.
Voilà.
Qui se dit, oulala, c'est très compliqué ce dont il parle.
Et surtout, il justifie d'exister.
Bah oui, parce que si leur discours était réduit à ce qu'il l'était en termes de contenu,
ils n'existeraient pas. Mais ça, il nous dit, c'est de la fourberie mentale, en fait. Il va nous apprendre à être fourbe. Il va nous apprendre, par exemple, les paralogismes. Donc, de type, c'est par exemple l'affirmation du conséquent. Si P, alors Q, or Q, donc P. Application dans les médias. Si les structures d'une société sont justes, alors les citoyens ne se rebellent pas. Or, les citoyens de notre société ne se rebellent pas, donc les structures de base de notre société sont justes. Plein d'arguments comme ça. Il nous donne le faux dilemme aussi. L'argument du faux dilemme, c'est forcer un choix. C'est-à-dire faire comme s'il y avait seulement deux choix, deux options pour faire oublier toutes les autres. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Généralisation hâtive. L'acupuncture, ça marche. Mon frère a arrêté de fumer en consultant un acupuncteur. Et puis il y a d'autres arguments comme ça. Il y a l'argument ad hominem, donc quand on attaque la personne au lieu d'attaquer son argument. L'argument du hareng fumé, qui est aussi marrant, d'après une histoire peut-être fictive, peut-être vraie, il n'est pas sûr de ça, que les esclaves américains qui s'échappaient, en fait, pour laisser une fausse piste pour les chiens, ils mettaient des harengs fumés, donc c'était pour distraire. Il nous parle, en fait, de toute cette fourberie argumentative. l'appel au peuple, l'appel à l'ignorance. Alors l'appel à l'ignorance, c'est par exemple, personne n'a pu démontrer que tel voyant trichait pendant les expériences.
Donc il ne triche pas et ce qu'il dit est vrai.
Et donc il ne triche pas et ce qu'il dit est vrai, voilà. Puis d'autres arguments, il y en a trois autres qui valent la peine d'être mentionnés.
Vas-y, ouais, juste après, on va passer un petit morceau de musique pour faire plaisir à José.
C'est par exemple l'appel à la pitié et puis aussi l'appel à la peur, c'est-à-dire quand on vous fait peur, finalement, vous allez accepter plus ou moins n'importe quel argument.
My life is starting over again, my friend. Say I'm back again. My life is starting over again, my fame. Spreading across the land. Now I've got me a band. Got me a band. My fame is spreading across the land. My life is starting over again. Over again. I know that there's no the years of suffering and pain, there's no one to blame except myself. But my life is starting over again, over again. My time is fleeting fast, it just won't last, I forgot. My life is starting over again, my friend. Say I'm back again. My life is starting over again, over again, over again,
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear.
You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et c'est Jeudi Noir. Ce soir, on vous parle du livre de Normand Baillargeon, Le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Et dans la première partie, on a parlé de la raison pour laquelle il avait écrit ce livre, c'est-à-dire former des gens à la pensée critique, faire une espèce de manuel qui nous servira un petit peu tout le temps, et puis on a parlé du langage. Et là, il y a une autre partie qui est vraiment intéressante et assez drôle, c'est sur les mathématiques. Alors, il nous parle de l'innumérisme. C'est plein de
la
choses.
La version mathématique de l'illettrisme. Ouais.
C'est ça. C'est quand, alors, ça peut être quand on a peur des mathématiques, ce qui est le cas de beaucoup de gens, ou quand on n'est pas très bon en mathématiques, ce qui est le cas de beaucoup de gens pour la première raison. Et il nous propose en fait de faire des mathématiques citoyennes. Il se met à la place des gens qui ne sont pas forcément intéressés par les chiffres, qui n'y comprennent rien parfois. Alors, il nous donne des manifestations de l'innumérisme et puis il nous donne des remèdes. Donc, il nous dit par exemple, il arrive qu'on nous donne des données. On donne plein de chiffres et puis ça n'a strictement aucun sens. Un jour, il raconte l'histoire d'un universitaire qui a dit devant lui que 2000 enfants irakiens mouraient chaque heure depuis 10 ans. C'était en 2005, à cause de l'embargo américano-britannique contre l'Irak. Et puis, si on fait le calcul, donc, ça nous donne 17 500 000 enfants par an depuis 10 ans. Au moment où Baillargeon écrit, en fait, il y a 20 millions d'habitants en Irak. Et donc, du coup, ça peut être un problème. Et en 1995, il nous raconte une soutenance de thèse d'un candidat qui disait que depuis 1950, le nombre de jeunes qui ont été tués ou blessés par des armes à feu aux États-Unis avait doublé chaque année. Et alors il dit, bon bah voilà, on va s'amuser un peu, mettons qu'il y en a eu un seul en 1950. En 1980, on arrive à 1 milliard d'enfants, et en 1987, on arrive à plus que le nombre d'êtres humains qui ont vécu sur la Terre depuis qu'il y a des humains. Donc ça commence à devenir compliqué. Il nous dit aussi, bon, des fois le problème c'est qu'on est victime de terrorisme mathématique. Alors, le terrorisme mathématique, pour lutter, il faut prendre son temps. C'est quand les gens nous balancent des histoires, des mathématiques dans une histoire et qu'on ne comprend rien du tout. Donc, il raconte une légende urbaine, bon, qui n'est peut-être pas vraie, hein, il n'est pas sûr, qui est assez marrante. C'est un mathématicien qui s'appelle Léonard Euler, qui était profondément chrétien, qui rencontre Diderot, qui était bien sûr profondément athée. Il le rencontre à la cour de Russie, donc on ne sait pas si c'est vrai. Et puis, Monsieur Euler, le mathématicien, aurait dit à Diderot, « Monsieur, A plus B multiplié par N divisé par N égale X, donc Dieu existe. Répondez. » Et Diderot n'aurait rien su répondre. Pour quelle raison?
Je ne sais pas.
Bah parce qu'il n'aurait rien compris, donc il ne savait pas quoi répondre, forcément.
Oui.
C'est ce qu'il appelle le terrorisme mathématique, en fait. Mmh. Donc, quand on est face à des choses...
Aujourd'hui, il va s'exprimer un petit peu différemment. C'est-à-dire que dans les journaux, vous avez souvent des tas de chiffres qui tombent du ciel et qui ne sont pas forcément interprétés. Alors que les chiffres en eux-mêmes, finalement, ne disent pas grand-chose.
Non, ils ne disent rien.
Par exemple, très souvent, les chiffres de la criminalité mesurent davantage l'activité de la police elle-même que l'activité des criminels. Donc il y a tout un tas de soucis comme ça avec l'usage des chiffres qui sont dans notre société à la fois souvent très craints et en même temps revêtus souvent d'une autorité un peu sacrée sans que forcément on y réfléchisse.
Oui, parce qu'on nous a assénés en chiffres en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait par exemple quand on a des très très grands nombres qu'on ne sait pas traiter? Il propose lui, Baillargeon, comme solution de les diviser en unités plus petites qu'on arriverait à appréhender. Par exemple les postes budgétaires, il nous parle de la guerre en Irak encore. Donc pour les États-Unis, ça faisait une année donnée, c'était 113 milliards de dollars. Mais pour nous, ça veut rien dire 113 millions de dollars.
113 milliards.
113 milliards, oui.
Ah oui, non, ça n'a aucun
sens. Ça veut vraiment rien dire, ça n'a vraiment aucun sens. Mais par contre, si on dit que chaque foyer américain a donné 1600 dollars et du coup chaque américain 404 dollars, ça prend tout de suite une autre dimension.
Donc ça, pour payer quoi, ça ?
Des soldats.
Ah, d'accord.
La guerre.
Oui.
Voilà. Pour payer la guerre en général. Donc ça, c'est assez difficile aussi, des fois, quand on est face à ces chiffres-là, qu'on n'y connaît pas grand-chose. Et puis, des fois, ça peut prendre encore une toute autre tournure. Quand il y a des espèces de coïncidences numériques, alors là, on est parfois dans le mensonge, il nous raconte l'histoire d'un mathématicien des années 70, qui s'appelle Uri Geller, et qui prétendait avoir des espèces de pouvoirs. Donc, il a fait toute une interprétation de chiffres sur le 11 septembre.
C'est celui qui prétendait tordre des cuillères par la seule force de la pensée ?
Il a probablement fait ça aussi. Est-ce qu'il l'a fait ? Je sais pas, en fait. Il disait... Oh, si, exact. Il faisait quelques tours de prestidigitation assez ordinaires, en fait. Et il disait qu'il avait vraiment des super pouvoirs. C'était dans les années 70 et il nous cite tout un tas de faits. Parce qu'il pensait que lui, il avait accès au mystère de l'au-delà concernant le 11 septembre. Donc il nous dit par exemple, la date de l'attaque est le 9-11, donc 9 plus 1 plus 1 égale 11. Le 11 septembre, c'est le 254e jour de l'année, or 2 plus 5 plus 4 égale 11. Le premier vol à frapper les tours était le vol 11 d'American Airlines. AA peut s'écrire 1-1. Puis il y a plein de trucs comme ça sur l'indicatif téléphonique de l'Irak. Et puis en fait, si on regarde.
La conclusion, c'est quoi ?
Alors la conclusion, c'est qu'il y a tellement de coïncidences.
Que
ce n'est pas une coïncidence. Sauf que si on regarde, il y a des données qui sont fausses là-dedans, mais personne ne va s'aventurer à les regarder, puisque de toute façon, il y en a trop. Donc par exemple, l'indicatif de téléphonique de l'Irak, c'est le 964, c'est pas le 119, comme il le dit, parce que c'est 119, ça faisait 11-9. Ça, c'est encore un autre truc de terrorisme mathématique, c'est quand il y a des données qui... Enfin, on peut finalement glisser des trucs faux, hein, dedans.
Bah, suffit. Est-ce que c'est lié aux mathématiques en eux-mêmes ou est-ce que...
Non, c'est lié à la fourberie.
C'est lié à la fourberie, ça, parce qu'il suffit de... Sur n'importe quoi, tu balances un nombre invraisemblable de faits, la plupart des gens n'iront pas tous les vérifier, parce qu'ils ont autre chose à faire.
Mais, ça, du coup, ça peut être faux, mais des fois, c'est vrai. Donc, par exemple, on peut vous donner des données qui sont détachées de quoi que ce soit, et le remède, c'est rattaché. Donc, si on vous dit, par exemple, que 80% des personnes préfèrent le chocolat X, alors, il nous dit, ils vont déjà que ce qui compte, c'est pas forcément ce que pensent les autres qui comptent, peut-être nous, on pense. Et puis, est-ce que c'est 80% de 300 personnes, de 800 personnes, de 1000 personnes, de 10 personnes? Et puis, est-ce qu'ils préfèrent à quoi? Est-ce qu'ils leur ont donné le chocolat le plus immonde par rapport au chocolat X? Quand on vous dit qu'un...
C'est-à-dire qu'il faut un contexte.
Il faut un contexte, il faut rattacher les données à quelque chose.
Ouais, parce qu'un chiffre en lui-même ne signifie strictement rien s'il n'est pas rattaché au contexte précis dans lequel il a été finalement produit.
Deux fois moins de glucides, par exemple, sur un
deux
produit.
Deux fois moins que quoi ?
Que quoi ? Ou des fois, on peut changer la définition en cours de route aussi. Ça, c'est encore un autre truc assez marrant. Par exemple, comme ça, en 1998, au Royaume-Uni, ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec 500 000 chômeurs en plus. Ils n'ont pas compris pourquoi. En fait, ils avaient juste changé la définition de chômeur. Et puis, ça, de toute façon, ils l'ont fait quelque chose comme 32 fois en 10 ans. Donc ça, c'est pour vraiment quand on vous donne juste des chiffres. Après, ils nous parlent des probabilités et des statistiques. Et notamment d'un truc très intéressant, c'est la mesure ce qu'il appelle les tendances centrales. Enfin, ce qu'il s'appelle, c'est pas lui qui appelle ça. C'est les tendances centrales. Quand on vous parle, par exemple, des salaires moyens, quand on vous parle de... Si vous postulez par exemple à un job, on vous dit voilà, le salaire moyen dans l'entreprise, c'est ça. Si vous êtes un étudiant qui envisage par exemple d'aller dans telle ou telle école, dans telle ou telle université, on va vous dire le salaire moyen de nos étudiants comme premier job à la sortie, c'est ça. Mais sauf que lui nous dit la moyenne, souvent c'est pas la mesure qui est appropriée. Il faut utiliser d'autres mesures de tendance centrale qui sont assez simples à calculer. Il nous parle notamment de la médiane et du mode. La médiane en fait, c'est la valeur telle que la moitié des données est au-dessus et la moitié au-dessous. Donc ça, pour les salaires...
Pour les salaires, c'est le salaire médian qui compte beaucoup plus que le salaire moyen. Et l'écart entre le salaire médian et le salaire moyen est souvent très très indicatif et souvent nous indique beaucoup de choses sur les inégalités en matière de revenus.
Mais le salaire médian,
le salaire moyen, concrètement, ça veut dire combien gagnent 50% des Français. Voilà. Et on s'aperçoit que le salaire médian, défini ainsi, est bien inférieur au salaire moyen.
C'est aussi intéressant. Par exemple, pour les salaires, on peut utiliser le mode aussi. Le mode, c'est la valeur qui est la plus fréquente dans un ensemble de données. Donc si vous allez être embauché par une entreprise, c'est intéressant d'avoir le mode. Si vous allez être embauché par exemple au premier échelon, vous allez voir que les personnes, le plus grand nombre de personnes qui gagnent tant, vous allez en faire partie, et c'est beaucoup moins élevé que le salaire moyen qui aura été calculé avec le salaire du patron. Une autre mesure intéressante, alors qui est un petit peu plus compliquée à calculer parce que il faut une formule, mais il vous la donne la formule, puis de toute façon elle est sur toutes les calculatrices, c'est l'écart type. Et alors là l'exemple, c'est si vous avez pêché des poissons dans une rivière, et on vous dit que la rivière est polluée parce qu'il y avait une usine qui a déversé ses polluants dans la rivière. On vous dit, il y a à partir de 7 mg de polluants, c'est dangereux. Et puis l'usine a fait faire des mesures quand même, parce qu'ils sont un peu responsables, et ils vous disent, en moyenne, il y a 4 mg de polluants. Est-ce qu'il faut manger du poisson ou pas ?
Je dirais non.
Alors je pense que tu aurais raison, par principe, mais en fait il faut regarder l'écart type qui nous permet de calculer la variation autour de la moyenne. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a beaucoup plus que, 4 mg à certains moments, ou est-ce qu'il y a beaucoup moins ? Si la variation autour de la moyenne est énorme, c'est-à-dire si on peut trouver de façon assez fréquente 10 mg, si ça s'éloigne assez souvent de ces 4 mg de moyenne, il ne faut surtout pas en manger, évidemment.
Le souci ici, c'est qu'on n'a pas toujours accès aux données.
Voilà. Mais la moyenne, souvent aussi, la moyenne, elle est souvent donnée, en fait.
La moyenne est souvent donnée, oui, mais
parce
la moyenne,
elle dit rien.
La moyenne dit tellement rien,
voilà,
qu'on peut la donner sans danger.
C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on la donne aussi souvent, d'ailleurs.
Après, les données qui nous permettraient de calculer des choses un peu plus précises ne sont pas forcément accessibles.
Voilà. Facilement. Et puis, pour terminer sur la science, je vais parler d'un dernier point qui est assez drôle parce que ça mêle un petit peu à la fois, l'utilisation de la science, enfin l'utilisation des mathématiques. Et la superstition, en fait, c'est le phénomène, ce qu'on appelle de régression vers la moyenne. C'est-à-dire, la régression vers la moyenne, c'est... On nous parle d'un journal de sport qui s'appelle le Sports Illustrated, qui est connu notamment pour son numéro sur les maillots de bain.
Ah oui, c'est un magazine très très célèbre aux États-Unis qui a lancé un peu les planètes dans les années 60.
Il fallait être sur le numéro des maillots de bain du Sports Illustrated, mais si on était un sportif, on pouvait aussi être invité à être en couverture du Sports Illustrated. Et alors, il y avait ce qu'ils appelaient la malédiction du Sports Illustrated, qui existe encore. C'est-à-dire qu'un sportif était invité à être sur la couverture de ce magazine après une performance exceptionnelle. Et après, bizarrement, à chaque fois, il faisait des performances vraiment pas bonnes du tout. Donc on appelait ça la malédiction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on y allait, on était un bon sportif, on savait qu'on allait devenir un sportif moins bon. Mais en fait, ça n'avait rien à voir évidemment avec la couverture du magazine. Ce qui se passait, c'est que la raison pour laquelle il avait été invité, ce sportif, c'est que justement, il avait fait des performances qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'il était capable de normalement, c'est-à-dire qu'il avait explosé sa moyenne un jour. Donc après, qu'est-ce qu'il allait faire normalement ? Il allait revenir à quelque chose qui était plus proche de ses capacités. Donc, finalement, ce qu'il a fait après la couverture du Sports Illustrated, c'était plutôt ce qu'il faisait le reste du temps, avant de faire la couverture du Sports Illustrated. Mais ça, il ne s'en rendait pas du tout compte. Donc, il avait l'impression que c'était la faute de la couverture du journal. Et ça, c'est une malédiction qui est très très connue si vous êtes un sportif américain.
Alors, tout à l'heure, vous avez entendu deux morceaux. Un morceau donc, de Daniel Johnston, My Life is Starting Over Again. Et puis un morceau de Johnny Cash. C'est une reprise de Nine Inch Nails et le morceau s'intitule Hurt. Voilà, et puis là, je vais courir au studio, puis vous passer un autre morceau. Devinez de quoi ? De No Means No, bien sûr. Ah, je vous étais content.
Never felt so alone. I never felt so used. I
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir.
Voilà, et vous venez d'entendre donc de la musique canadienne, comme un auditeur en colère qui téléphonait, nous a dit qu'on entendait trop de musique canadienne sur Radio Libertaire. Voilà, sinon, bon, en fait, c'était Jean-Mathias qui voulait me faire une blague. Et puis, on va remercier aussi, donc, entre chien et loup, puisque on a trouvé un technicien tout d'un coup. Donc, c'est cool. Et puis, Sophie, je te laisse la parole.
Alors moi je vais finir sur la deuxième partie du livre de Baillargeon qui est sur la justification des croyances en fait. Donc c'est une application des outils qu'il nous a donné en première partie avec des points un petit peu plus concrets, un petit peu plus détaillés. Donc sur par exemple, il nous parle de l'expérience personnelle qui nous piège hein, sur les illusions d'optique, sur ce qu'on croit voir des fois parce que on essaye de trouver des choses familières. Donc il nous parle de ce fameux sandwich qui a été vendu sur eBay en 2004, 28 000 $. C'est cher, c'était un sandwich au fromage grillé. C'était un peu cher, mais parce que en fait, on y voyait soi-disant le visage de la Vierge Marie. Donc c'est pour ça que ça s'est vendu très cher.
Ça s'invente pas ça.
Non, ça s'invente.
Attends,
pas.
Attends, il y a un type qui a acheté un sandwich 28 000 $
fromage grillé.
Bon.
Mais il y avait la Vierge Marie dessus, enfin, le visage de la Vierge Marie.
Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il l'a mangé?
Au congélateur.
Au congélateur.
Non, je sais pas. Je sais pas. En fait, il l'a probablement mis au congélateur pour que ça reste en l'état. Donc évidemment, ça c'est un petit peu pour frapper notre esprit avant de se dire que quand même faut peut-être un petit peu réfléchir des fois et qu'on se fait facilement avoir.
Tout le monde ne fait pas ça.
Non, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font quand même. Donc Baillargeon, il nous apprend des choses. Il nous dit voilà, puisqu'on se fait piéger par notre expérience personnelle, par notre perception, des fois on va peut-être apprendre à faire des tours de magie. Donc il y a 3 recettes de tours de magie dans le livre. Une notamment pour faire semblant de lire dans les pensées des gens. Donc je les ai testées les 3, c'est très très drôle. À chaque fois, il faut un complice, évidemment. C'est très marrant. Il nous parle de notre mémoire aussi, qui nous joue vraiment parfois des tours. On a toujours l'impression que c'est fiable, et puis non. Notamment avec un groupe de témoins dans une expérience psychologique à qui on avait dit... On leur avait montré une vidéo d'accident de voiture, et après, on les avait divisés en 2. On leur avait posé la question, à quelle vitesse les voitures allaient-elles quand elles se sont... Non, la première question c'était fracasser et la deuxième question c'était percuter. Et ceux à qui on avait dit à quelle vitesse se sont-elles fracassées, en fait, ils donnaient toujours une vitesse bien supérieure. Et il y en a même qui juraient qu'ils avaient vu du verre brisé alors qu'il n'y en avait pas dans l'accident. C'est comme ça qu'on arrive à implanter des faux souvenirs aussi dans le cerveau des gens.
Ou il se l'implante tout seul ou...
Non, on peut, par exemple, avec des espèces de manipulations psychologiques...
En utilisant certains mots plutôt que d'autres.
Certains mots plutôt que d'autres. Il y a par exemple, dans une expérience, il y a 25% des patients de l'expérience à qui on a pu implanter le faux souvenir d'avoir été oublié dans un centre commercial quand ils étaient enfants. Donc ils juraient qu'on les avait oubliés.
Ah, je me souviens.
Puis c'était jamais arrivé.
Oublié.
Ah, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Bah, tu fais partie des 25%. Et alors pourquoi est-ce que on persévère malgré tout dans la croyance alors que des fois on a tort? Ça, il l'explique par un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que quand les faits nous montrent qu'on a tort, et ben c'est là qu'on croit encore plus. C'est pour ça qu'il nous parle de...
Ah oui, il y avait une étude qui avait été faite là-dessus, je crois. C'était des sociologues s'étaient penchés sur la question de savoir pourquoi les membres d'une secte continuaient de croire à l'apocalypse alors que la date de l'apocalypse avait été dépassée.
Mais c'est ça qui nous raconte, dans les années 50, il nous parle de Marianne Keach et des clarionautes. Alors, donc début des années 50, le 21 décembre, normalement, la Terre elle est détruite, selon les adeptes de cette secte, les clarionautes, par une espèce de déluge effroyable. Mais il y avait un escadron de soucoupes volantes de la planète Clarion qui venait sauver les adeptes de la secte. Et puis tous les gens qui seraient près de cette dame, Marianne Keach, qui était la chef de la secte, allaient être sauvés aussi. Alors, il y a des fidèles qui se sont attachés à elle. Et ils ont mené une existence exactement conforme à leur nouvelle croyance, c'est-à-dire qu'ils se sont détachés de leur famille, de leurs amis, détachés de leurs biens aussi, accessoirement.
En faveur de Marianne Keach.
Alors ça, on ne sait pas, il ne le dit pas, mais bon,
on peut
quand même le supposer. Et il y avait aussi incognito dans le groupe des psychologues qui voulaient observer, en fait, donc c'était censé se produire le 21 décembre, le 20. Elle a reçu un nouveau message de Clarion, des clarionautes, Marianne Keach, qui lui disait qu'il fallait que tout le monde enlève tout le métal qu'il avait sur soi. Donc ils ont, avec soin, enlevé tous les boutons, toutes les fermetures, tout ça. Minuit arrive, le 20, désespoir, parce qu'il ne se passe rien à minuit le 20. Et puis à 4h45, Marianne Keach reçoit un message des clarionautes.
Nous avons déjoué l'attaque.
Alors non, grâce à sa foi... à sa foi inébranlable, en fait, la catastrophe avait été évitée, l'intervention des soucoupes volantes n'était plus nécessaire. Et alors ces gens qui étaient plutôt doux, plutôt gentils, etc., plutôt, ils restaient entre eux, hein, ils sont mis à mener des campagnes absolument passionnées, à faire des innombrables conférences, et finalement leur foi a été renforcée par le fait qu'ils aient eu tort. C'est la dissonance cognitive. Donc ça, c'est une des nombreuses croyances qu'on peut avoir. Il y a l'effet Forer aussi.
Ça, la dissonance cognitive, on peut le voir dans les grands patrons de presse français. Hein.
Ils ont tous été d'avoir tort.
Ils ont tous été d'extrême gauche, ils avouent tous être beaucoup trompés, ils doivent continuer à se tromper, mais bon, ils continuent
de grimper, quand même.
Et d'avoir la foi.
C'est bien. Ils continuent quand même, ils ont toujours la foi.
Donc il faut comparer Serge Julie et
Marianne Kitsch.
Et Marianne Kitsch, ouais.
Et il y a plus de soucoupes volantes. Dans l'effet Forer, c'est une autre expérience intéressante, c'est sur le fait qu'on a tendance à croire ce qu'on nous raconte un peu facilement quand on donne une autorité, et aussi quand ça nous concerne. Donc en 1940, c'est un professeur de psychologie qui a donné à ses étudiants un test de personnalité. Et après, il leur a donné les résultats. Il leur a dit, voilà, vous notez ce test de personnalité, vous dites si ça vous correspond ou pas. Et les étudiants ont trouvé que c'était un bon test. Hein. Ils ont mis en moyenne 4,2 sur 5. C'est-à-dire que 4,2 sur 5, ça veut dire que vous trouvez que les résultats du test sont quand même vraiment, vraiment très, très précis par rapport à votre personnalité. Et en fait, les résultats du test, c'était les mêmes qu'il avait donné à tout le monde. Il avait pris des morceaux de prédictions astrologiques dans des magazines. Donc, les résultats que tout le monde trouvait si frappants et si réels.
Et en fait, c'est des phrases du type, vous êtes timide, vous êtes généralement timide, mais quand il est nécessaire,
vous arrivez à surmonter la timidité.
Vous arrivez à surmonter votre timidité.
Vous avez
c'est
quelques
que des phrases comme ça, quasiment
mais...
contradictoires, mais qui sont suffisamment larges pour s'appliquer à peu près tous les cas possibles. C'est un peu ce qu'on disait sur les horoscopes en début d'émission. Et j'ai lu le petit tract, il est dans un autre bouquin.
Sur les personnalités, le test de personnalité.
C'est un petit texte d'une quinzaine de lignes.
Oui, il le reproduit d'ailleurs, il le donne le test.
Et voilà, vous avez des gens qui vont se reconnaître là-dedans, parce que ouais. Bah, ils sont convaincus. Il y a aussi toute la préparation en amont qui est très importante. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent le test bidon, qui n'a strictement rien à voir.
Mais ils le passent quand même, il y a des questions, ils répondent aux questions,
ils
prennent la peine.
Mais il le faut. Parce qu'autrement, ça marcherait moins bien.
Bah oui.
Parce que comme ils sont convaincus que la réponse est individualisée.
Dépend d'eux.
Et dépend d'eux et du test qu'ils ont passé auparavant.
C'est donc que c'est vrai.
C'est donc que c'est vrai.
Par exemple, c'est vous avez besoin d'être aimé et admiré des autres, et pourtant vous démontrez aussi une tendance à être critique envers vous-même. Bon, là, je vois pas qui se reconnaît pas là-dedans, en fait. C'est assez difficile. Donc, comme ça, il nous cite un certain nombre d'expériences psychologiques qui ont été menées. Il nous parle un peu de pas mal de façons d'éviter ça. Et puis, à la fin, il vient sur le gros morceau, c'est-à-dire les médias. Et là, il nous donne principalement, alors, certains exemples de manipulation médiatique assez connus, puis d'autres qui sont moins connus, donc qui valent le coup, parce que c'est surtout des exemples américains. Des manipulations, notamment cette fausse jeune fille koweïtienne qui était venue témoigner des horreurs de Saddam Hussein, des troupes de Saddam Hussein lors de l'invasion du Koweït par l'Irak, lorsque les États-Unis avaient très très besoin d'aller en guerre contre l'Irak. Cette jeune fille de 15 ans avait témoigné d'atrocités, de soldats irakiens qui tuaient des bébés dans des hôpitaux. Et en fait, il s'était avéré après que c'était faux, puisque la jeune fille, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït. Elle avait été formée pour cette performance-là, ce mensonge-là, par une firme de relations publiques américaine, pour faciliter justement l'entrée en guerre. Cette firme avait été payée 10 millions de dollars. Donc ça, finalement, lire ce livre, en fait, la partie sur les médias, elle est vraiment très intéressante, puisqu'on a fait tout le travail en amont, justement, de s'interroger sur ce qu'on croit, sur ce qu'on ne devrait plus croire, en fait.
Comment on nous le fait croire.
Et donc, il nous dit, en fait...
Comment on se le fait croire à soi-même, d'ailleurs, aussi.
Tout seul, oui. Des fois, on se met dedans tout seul comme des grands. Il nous dit, finalement, tout ça, ça doit nous donner une autre idée de la démocratie. Et à la fin du livre, il nous propose 31 stratégies, justement, pour entretenir notre attitude critique par rapport aux médias. Donc, on est paré, en fait. Si on suit les conseils de la première partie, avec le langage et les chiffres, on est vraiment paré.
Ensuite, les 31 conseils, je les ai regardés, c'est un boulot de fou en même temps.
C'est beaucoup de travail.
Parce que si vous voulez vérifier tout ce que racontent toutes les conneries qui sont déversées quotidiennement dans vos oreilles, vous allez pas en finir.
Mais on peut vérifier sur les sujets qui nous intéressent.
Après, effectivement, c'est sans doute, on peut vérifier sur les sujets qui nous intéressent. Et c'est plus intéressant de donner cette espèce de boîte à outils intellectuelle plutôt que de se tenir à tout est faux. Parce que si vous dites tout est faux,
on perd l'esprit critique. On n'a pas d'esprit critique quand on dit ça.
Parce que vous êtes pas loin d'être dans les théories de la conspiration. À rien, les gens qui vous disent on ne peut rien croire dans les médias, voilà. Comme ça, de façon générale.
Il le dit, c'est pas l'attitude à adopter pour lui.
Ils peuvent tout à fait croire aussi aux soucoupes volantes. Hein.
Oui.
C'est pas du tout contradictoire.
Pareil.
Et c'est pas du tout pareil. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et puis on va laisser donc nos camarades d'Entre Chiens et Loups vous faire écouter 2-3 trucs. Et puis nous, on va vous faire écouter un dernier morceau de Daniel Johnston qui s'intitule I Feel So High. Voilà. Merci de nous avoir écoutés.
Bonsoir.
Et puis, à dans 2 semaines. Merci Sophie.
Merci.
Everything is so much better now that we are back together. I did what I had to make you mine. Just to see your shining face makes me feel I've won the race. And every day is Christmas time. I feel so give it to you too. I'll buy you a wedding ring, put on your finger with glue. You were the only one I could ever look in the eye. I'll love you forever, even after I die. I feel so high. I feel so I've won the race.